Bonjour à chacun d'entre vous. C'est toujours une joie de vous retrouver le dimanche matin. C'est notre rassemblement hebdomadaire qui nous permet de nous saluer, prendre des nouvelles et puis aussi manifester notre affection. Ce matin, j'aimerais répondre en partie à une question que nous pouvons peut-être nous poser de temps en temps ou que quelques personnes se posent. Qu'est-ce qui distingue nos églises évangéliques des autres églises, par exemple catholiques, réformées, luthériennes? Alors, je ne parle pas de l'aspect organisation de nos églises. Il y a des différences. L'Église catholique, par exemple, est de type pyramidal. L'Église réformée, l'union des églises réformées a des synodes, c'est-à-dire des rassemblements de pasteurs où des décisions peuvent influer sur la vie des églises locales. Et puis il y a le type un peu des églises évangéliques qu'on appelle congrégationalistes, c'est-à-dire que la congrégation, les membres d'église jouent une part importante dans la vie de l'église. On demande leur avis. C'est pas de cela dont je voudrais parler ce matin. C'est sans doute de quelque chose de plus profond que cela. Il y a un sociologue anglais qui s'appelle Babington, c'est un nom très très anglais, Babington, hein. C'est pas Badminton, hein, c'est Babington, qui a trouvé que quatre particularités, quatre aspects distinguent les églises évangéliques des autres églises. Alors, sur la feuille hebdomadaire, vous avez cette phrase: ce matin, nous aborderons la première des quatre notes caractéristiques du mouvement évangélique. Et la première de ces notes, c'est la conversion. Hein? Et puis les trois autres points, c'est le développement de ce que je vais dire ce matin. Alors, ce n'est pas les quatre notes, c'est pas la conversion, l'individualité, discerner le vrai du faux et la conversion comme commencement. Mais la première de ces quatre notes, c'est la conversion. Nos églises sont des églises protestantes, mettent en avant ce qu'on appelle la conversion comme moment décisif de la vie chrétienne. Alors, je vous donne les trois autres points, les trois autres notes que ce sociologue Babington a trouvées. La place de la Bible, voilà, la place centrale de la Bible. La Bible comme étant parole de Dieu infaillible, hein. La place de la croix, aussi la croix de Jésus-Christ. L'apôtre Paul a écrit: nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, puissance de Dieu, sagesse de Dieu. Voilà, ça c'est un point qui est mis en avant. Et puis le dernier point, c'est l'engagement, le témoignage. Voilà, les membres des églises évangéliques devraient être, ou doivent être, engagés, des chrétiens engagés, des chrétiens qui témoignent. Alors, j'avais pensé dans un premier temps vous présenter ces quatre points dans une seule prédication, et puis je me suis vite rendu compte que, à moins de rester là 2 heures, ce ne serait pas possible. Alors, ce matin, nous parlerons donc de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion ? Tout d'abord, la conversion nous concerne en tant qu'individu, en tant que personne. Et il y a eu un théologien autrefois, il est né vers 150, il est mort vers 220, donc il est né entre 150 ou 160, on ne connaît pas la date exacte de sa naissance. Il s'appelait Tertullien, aujourd'hui il serait tunisien, parce que il est né à Carthage et il a vécu aussi dans cette région. Il est issu d'une famille berbère. Dommage que notre ami Kamel ne soit pas là ce matin, il est berbère. Et Tertullien, un grand théologien donc du début du christianisme, et l'Afrique du Nord était une région couverte d'églises à ce moment-là. Il s'est converti au christianisme, donc à la fin du IIe siècle, et il a dit cette parole qui pour nous semble évidente, mais qui déjà à cette époque ne l'était pas ou ne l'était plus. On ne naît pas chrétien, né du verbe naître. Hein. On ne naît pas chrétien, on le devient. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne ou parce qu'on a été baptisé chrétien en tant que petit bébé que on est chrétien. Non, on le devient par un acte de sa volonté, par un acte personnel, par une décision personnelle. Et ce devenir, on devient chrétien, s'appelle la conversion. Et la conversion, eh bien, se trouve à l'origine d'une vie chrétienne authentique. Se convertir, ça veut dire, à la fois dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, faire demi-tour, changer de direction, changer de comportement. Ce mot est traduit par des mots différents selon la traduction de la Bible que nous avons sous les yeux ou selon peut-être l'ancienneté de nos traductions. Les Bibles catholiques, autrefois, traduisaient ce mot « convertir » par « faire pénitence ». Les Bibles protestantes, second en particulier, autrefois, traduisaient par « se repentir ». Le début du ministère de Jean-Baptiste ou le début du ministère de Jésus, c'est « repentez-vous ». Il s'adressait aux foules « repentez-vous », mais de façon personnelle. Aujourd'hui, c'est traduit davantage par le mot « changer ». Par exemple, la nouvelle Bible second traduit plus par « se repentir », mais par « changer radicalement ». Voilà, ils ont ajouté ce mot « radicalement », ce qui montre aussi la profondeur de ce changement. Et la Bible du Semeur avait d'abord traduit dans une première version, édition, changer de comportement, et puis dans une seconde édition, a traduit par changer, tout simplement. Changer. Voilà. Cela montre que dans la vie, il doit y avoir un peu comme un retournement, comme une transformation, un retour vers le Seigneur. Et c'est ce qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament. Par exemple, je vous cite Jérémie dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 21. « Fais-nous revenir vers toi, Éternel, et nous reviendrons. » Ou Jérémie 31. « Fais-moi revenir, et je reviendrai. Après m'être détourné, je me repens. » Mais c'est le même mot. Revenir et repentir, qui est traduit par repentir ici. Hein. Fais-moi revenir et je reviendrai, après m'être détourné, je reviendrai ou je me repens. Alors on ne peut pas dire je suis converti ou je suis chrétien et vivre comme si l'on ne l'était pas. Il doit obligatoirement y avoir une différence. Et cette différence se situe principalement, mais pas seulement, par rapport vis-à-vis de Dieu. Il s'agit d'un changement profond, durable, d'attitude, de comportement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Et Ézéchiel, le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament, a une image très frappante. Lorsqu'il parle de conversion, il dit que Dieu va enlever le cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Comme si nous n'avions pas, chacun d'entre nous, un cœur de chair dans notre poitrine. Alors bien sûr, personne d'entre nous a une pierre à la place du cœur, il ne pourrait pas vivre évidemment. Mais c'est une image. Et cette image veut dire que certains sont insensibles comme de la pierre par rapport à Dieu. Hein, ne sont pas forcément insensibles par rapport à leur prochain, hein, mais par rapport à Dieu. Et que Dieu va faire comme une opération, une transplantation cardiaque, spirituellement parlant, en enlevant ce mauvais cœur et en le remplaçant par un cœur de chair. Alors, je suis désolé de vous le dire, hein, je vous connais plus ou moins tous ici, hein, ma parole s'adresse sans doute pas à vous personnellement, mais si vous êtes indifférent à Dieu, vous avez un cœur de pierre. Et il va de soi que tout le monde a besoin d'un cœur de chair et non d'un cœur de pierre. Et Dieu veut transformer, veut enlever ce cœur de pierre pour le remplacer par un cœur de chair. Puis la Bible a aussi une autre image, aussi très, très frappante. Dans l'Ancien Testament, il est question de circoncision, qui concernait une petite opération chirurgicale sur les petits garçons de 8 ans. Et il est dit que Dieu va circoncire le cœur. Alors, pas de façon, bien sûr, extérieure, mais là aussi, c'est une image. Cela veut dire que la marque de Dieu se situe au plus profond de l'être humain et non de façon externe. Et nous sommes invités à voir comme le cœur, là aussi, marqué par le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, et je vous invite à lire maintenant dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1er, alors l'épître aux Thessaloniciens se trouve avant l'épître à Timothée et après l'épître aux Colossiens. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, nous lirons les versets 9 et 10. Paul s'adresse aux chrétiens de la ville de Thessalonique, donc une nouvelle église, comme à cette époque, bien des églises étaient nouvelles. Et il écrit ceci, on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On voit bien aussi le changement, le volte-face, la transformation d'attitude chez ces chrétiens de Thessalonique. Ils se sont détournés de leurs idoles. Et les idoles existent encore aujourd'hui. Hein ? Ils s'appellent foot, rugby, argent, je ne sais pas quoi encore, hein, peu importe. Hein. Ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, mais aussi pour attendre, c'est l'espérance, le retour de Jésus et échapper à la colère de Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, nous ne le lirons pas, mais vous pouvez lire le chapitre 2 notamment de l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle d'un avant et d'un après. Autrefois vous étiez ceci, mais maintenant vous êtes cela. Autrefois vous marchiez de cette façon, sans Dieu, mais maintenant marchez en nouveauté de vie, mettez en pratique l'enseignement de Jésus-Christ. Et cela me rappelle un chant que nous avons chanté dernièrement à notre groupe à Châne le jeudi soir. Autrefois, enfant de colère, j'ai sali ton précieux nom. Maintenant, devant toi, mon Père, à genoux, je demande pardon. Je te donne ma jeune vie. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu et tu me rends vainqueur. C'est la conversion. Voilà. Autrefois, j'ai sali ton nom, ton précieux nom. Mais maintenant, je me donne à toi. À genoux, je demande pardon. Prends-moi. Prends mon corps. Prends mon âme, c'est-à-dire prends-moi entièrement. Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Jérémie. Fais-nous revenir vers toi et nous reviendrons. Mais c'est également ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 1 verset 29. Et il vous a été fait la grâce de croire en Christ. Acte 13, 48. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent ce qui nous montre que c'est Dieu qui touche notre cœur pour nous convertir. Et c'est lui qui, le premier, nous transforme intérieurement, nous parle intérieurement pour que nous puissions lui dire « Oui Seigneur, je me tourne vers toi, je me donne à toi, prends ma vie, elle est à toi ». C'est à Dieu que revient toute la gloire et c'est en ce sens que le salut est une grâce et non une œuvre indue ou quelque chose qui viendrait de nous-mêmes. Bien sûr, Dieu nous associe à ce salut. Bien sûr, il nous responsabilise, il ne fait pas de nous des robots, il veut que nous disions oui. Mais au fond de notre cœur, nous savons qu'il nous pousse à dire oui. Mais il veut que nous lui disions oui, il veut que de notre cœur, nous ayons cette attitude qui fait que nous nous donnons entièrement à lui. Et le schéma de la conversion, il est différent, hein, selon chacun d'entre nous, mais il pourrait, je pense, s'appliquer quand même un peu de cette façon. Nous passons par un moment de lutte intérieure, un moment d'interrogation, parfois des luttes vives, désagréables. S'ensuit une profonde libération lorsque nous nous donnons au Seigneur, une assurance du pardon, de l'accueil de Dieu, de l'amour de Dieu. Parfois, des pleurs de joie, un peu comme chez ce grand philosophe Blaise Pascal, hein, pleurs de joie, il a écrit dans un témoignage qu'il a gardé toujours cousu dans le pan de son vêtement et que sa famille a retrouvé après sa mort. Mais il y a aussi des convertis qui ne ressentent pas émotionnellement ce genre de choses, hein, ce n'est pas une règle. Mais le Seigneur accomplit cette œuvre de conversion pour ceux qui se tournent vers lui. Alors, deuxième point, y a-t-il des vraies ou des fausses conversions? Oui, bien sûr. Et la parabole du semeur nous aidera, si on peut dire, à séparer le bon grain de l'ivraie, bien que cette démarche ne sera faite qu'au moment du jour du jugement. Mais, et on peut lire peut-être alors la fin de, ou l'explication que Jésus donne de cette parabole dans Matthieu 13. Alors, je résume en deux mots cette parabole que vous connaissez tous, hein, c'est un semeur qui jette sa semence. Alors, une partie de la semence tombe dans un terrain pierreux. Alors, elle lève un peu, puis ensuite, elle n'a pas suffisamment de racines, elle meurt. Une autre semence est jetée au milieu des épines. Alors elle lève aussi, mais ensuite elle est vite étouffée par ces épines. Et puis elle meurt aussi. Une partie de la semence est jetée sur le chemin. Et puis avec les gens qui passent, elle est vite aussi écrasée, étouffée. Et il n'y a que la semence qui est jetée dans la bonne terre qui donne du fruit. Et Jésus dit ceci à la fin pour expliquer cette parabole, chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, chapitre 18. « Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Mais il n'a pas de racine en lui-même, il est l'homme d'un moment, et dès que survient une tribulation, une épreuve, une persécution, hein, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Trois remarques. La joie n'est pas forcément le signe d'une vraie conversion. Dans la parabole, cette joie est de courte durée. Et elle se situe dans l'exemple où la semence est jetée dans les endroits pierreux, c'est-à-dire là où les racines ne prennent pas. Jésus dit, c'est l'homme ou la femme du moment. Voilà, ça ne dure pas. Mais c'est celui qui entend la parole, qui la comprend aussi, qui la comprend, qui saisit ce que cela veut dire, qui lui, alors, est véritablement converti. Et c'est au fruit que l'on juge de la réalité d'une conversion. Et on sait que le fruit ne vient pas tout de suite, hein. Il faut attendre les saisons pour que le fruit arrive sur les arbres. Il faut du temps pour qu'un arbre donne son fruit. Alors voilà, Jésus a montré qu'on peut très bien se tromper, on peut très bien avoir des personnes qui disent être converties et ne le sont pas. En fin de compte, c'est lui qui lit dans les cœurs et qui sait. Mais nous aussi, au fond de nous-mêmes, nous pouvons le savoir par le Saint-Esprit. Bien sûr, ce ne sont pas toujours les signes visibles, hein, les manifestations visibles qui témoigneront d'une véritable conversion. Je crois que certains peuvent rester très discrets, mais le Seigneur sait, il sait discerner le vrai du faux, et ce n'est pas forcément ceux qui s'expriment ouvertement sont les vrais convertis. Je pense que Dieu connaît nos cœurs et certains croyants peuvent être discrets, fragiles. On ne sait pas toujours tout. Prenez l'exemple de cette pauvre veuve qui a mis une petite pièce dans le tronc du temple et que Jésus montre en exemple. Les gens ne connaissaient pas sa vie, sauf le Seigneur. Les gens n'avaient pas remarqué ce qu'elle avait fait, sauf le Seigneur. Elle a tout donné, dit Jésus. Et cette femme avait tout donné au temple. Et c'est souvent dans l'épreuve que l'on voit la solidité de la foi. Vous connaissez cette jeune petite servante Blandine qui, en 170, a été jetée dans l'arène à Lyon, sur les pentes de la Croix-Rousse. C'était une petite servante sans importance. Mais c'est elle qui a encouragé sa maîtresse et les autres chrétiens. Certains étaient de conditions aristocratiques. Hein. Et c'est elle qui, jusqu'au bout, était là pour leur demander d'être ferme. Et le grand historien de l'Église, qui s'appelle Eusèbe, a écrit dans son histoire ecclésiastique cette phrase que je cite, « Comme une noble mère qui a exhorté ses enfants et les a envoyés victorieux avant elle auprès du roi, c'est-à-dire auprès du Seigneur. » Il parle là de cette servante Blandine. La conversion, c'est donc le commencement de la vie chrétienne. Jésus l'a dit aussi de façon très très forte à ce vieillard, cet homme âgé qui était Nicodème, dans Jean chapitre 3. « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Et Nicodème se dit, « Mais faut-il que je rentre de nouveau dans le ventre de ma mère pour renaître ?» Et Jésus dit, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » On peut traduire aussi « naître d'en haut » ou aussi « naître d'eau et d'esprit ». Et je crois que l'eau ici, ce n'est pas l'eau du baptême, mais c'est l'eau qui, dans l'Ancien Testament, est un symbole très fort du Saint-Esprit. Et être converti, c'est avoir reçu l'Esprit. C'est être né du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous avons reçu cet Esprit qui habite maintenant dans notre corps. Galates, chapitre 3, verset 2, Paul dit aux Galates, mais quand est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que c'est en pratiquant la loi de l'Ancien Testament? Non, c'est en écoutant la parole de Dieu avec foi. Déjà, le fait d'écouter, d'être sensible, d'être ouvert à la parole de Dieu est une œuvre du Saint-Esprit en nous. Vous avez reçu l'Esprit en écoutant la parole de Dieu. Savez-vous dans quel est le but de l'apôtre Jean dans sa rédaction de son évangile? Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean a écrit l'évangile de Jean? Je vous pose la question. Oui, voilà, Jean chapitre 20, verset 31. « Ceci est écrit, écrit l'apôtre Jean, afin que vous croyiez, pas que vous sachiez, que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Autrement dit, il a espéré, sans doute a-t-il prié pour cela, et sans doute ne savait-il pas que 20 siècles après, ce serait encore le cas. Que le lecteur, incrédule, ou ne sachant pas de quoi cela retourne, lise son évangile et en arrivant à la fin de l'évangile, se dise « Oui, Jésus est vraiment le Fils de Dieu, celui que Dieu a envoyé pour mourir sur une croix, pour moi, pour mes péchés, je me donne à lui. » Cet évangile est adressé à des lecteurs non chrétiens, hein, enfin chrétiens aussi, mais voilà, pour que les gens croient, pour qu'ils mettent leur foi, leur espérance en Jésus. Et dans son épître alors, hein, là je fais une parenthèse, hein, dans son épître alors qu'il s'adresse à des chrétiens, il leur dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle ». Là il s'adresse à des chrétiens qui savent qu'ils ont la vie éternelle. Et savez-vous quelle est la dernière parole de Jésus dans l'évangile de Jean? La dernière parole de Jésus qu'il a prononcée, hein, donc de vive voix, hein, qu'il a prononcé la dernière parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Hein, plus haut? Non, non. Non, non. Oui, oui, mais je crois que tu triches un peu là. Tu étais au courant de la réponse. Voilà. Jean 21-23, « Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. » C'est ce qu'il adresse aussi à chacun d'entre nous. Et c'est peut-être pas un hasard. Non seulement la parole est inspirée de Dieu, mais je pense que Jean a voulu laisser comme dernière parole de Jésus cet appel à se tourner vers lui. Et Jésus nous appelle tous à le suivre. Et combien il est important que nous nous déterminions pour lui, alors qu'au fond de notre cœur, nous savons qu'il nous appelle. Je m'adresse bien sûr à des gens convertis, mais peut-être, sans doute, y a-t-il parmi nous des personnes qui n'ont pas fait ce pas, qui n'ont pas extériorisé d'une certaine façon cette foi intérieure qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Je crois que c'est important de dire à Jésus, je me tourne vers toi, voilà, je me donne à toi, je crois, et prends ma vie, elle t'appartient. Et même plus que cela, je te donne tout, je m'abandonne à toi, parce que Dieu ne veut pas la moitié de notre vie, il veut toute notre vie, il veut tout. Et quand il est dit « toi, suis-moi », c'est « toi, suis-moi complètement, hein, à 100%, je veux être ton maître, je veux être celui qui dirige ta vie ». Et je crois que c'est important de prendre cette décision, de faire ce pas et à un moment donné de notre vie, que nous soyons jeunes, même enfants ou adultes ou personnes encore plus âgées, de prendre cette décision et de se tourner vers le Seigneur et de lui dire « oui, je me donne à toi ». Les enfants peuvent aussi le faire dans un très jeune âge. J'ai lu dernièrement un livre que je vous recommande, ce sera bientôt Noël, il y aura des cadeaux à faire. Le livre s'intitule « Le salut ». Il est écrit par un théologien anglais qui remplace petit à petit John Stott, qui était un immense bonhomme, qui vient de mourir à l'âge de 90 ans. Ce théologien s'appelle Christopher Wright. Mais les livres sont traduits en français, quelques-uns d'entre eux en tout cas. Et il écrit dans sa préface que lorsqu'il était petit, il était le troisième enfant, je crois, d'une famille, hein, chrétienne, Et quand il est sorti de l'école du dimanche, son grand frère lui a demandé si son nom, donc à Christopher, était écrit dans le livre de vie. Et il a dit, je ne savais pas ce que c'était que le livre de vie. Et son frère lui a expliqué ce qu'était, ce que ça voulait dire, être écrit dans le livre de vie. Et là, il a dit, j'ai donné mon cœur au Seigneur et j'ai eu la certitude que j'étais écrit dans le livre de vie. Et c'était quand il était tout petit. Et alors, il ne donne pas son âge, mais il dit que c'était lorsqu'il était enfant, peut-être 5, 6, 7 ans. Et il est devenu un théologien qui, aujourd'hui, est quelqu'un qui écrit des choses formidables. Pour certains, cela s'est fait dans un instant, même assez fort, parfois même de façon foudroyante, comme pour l'apôtre Paul dans la Bible. Pour d'autres, cela a été un processus lent qui a pris des années. Dieu agit différemment selon chacun d'entre nous. Peu importe que nous ayons été élevés dans une famille chrétienne ou non, je crois qu'il nous faut prendre cette décision de suivre le Seigneur. Et je crois que la conversion est le point de départ de la vie chrétienne. Et grâce à eux, puisque nous recevons le Saint-Esprit, nous pouvons avoir des églises qui sont formées de chrétiens, j'allais dire, authentiques, c'est-à-dire qui veulent absolument suivre le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole, qui ont le Saint-Esprit dans leur cœur. Et je crois que c'est cela que dans les églises évangéliques, nous voulons avant tout rechercher, que le Seigneur soit pleinement glorifié et qu'il soit pleinement présent, car c'est cette conversion qui fait que, en nous tournant vers le Seigneur, nous le recevons aussi dans notre cœur. Que Dieu bénisse sa parole au milieu de nous. Amen. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour cette possibilité que nous avons de nous tourner vers toi, de te dire que nous t'aimons et que nous voulons, à partir d'un certain moment, répondre à ton appel en te disant oui et en te faisant le maître de notre vie. Permets, Seigneur, que ce soit le cas pour chacun d'entre nous. Et nous avons sans doute aussi besoin, de temps à autre, de réactualiser notre conversion. Et nous avons besoin de te dire que nous t'aimons, que nous voulons te suivre et nous voulons faire de toi celui qui nous dirige. Bénis encore chaque personne ici présente, bénis ta parole dans nos cœurs et qu'il soit clair, Seigneur, que pour tous, nous t'ayons dit un jour, oui Seigneur, je t'aime et je veux marcher avec toi. Merci encore, Seigneur, pour ton œuvre dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.